Sam Bardawil est-il ferrate de commissaire pour cette exposition Ways of Seeing, qui est donc à voir à la Villa Empain? Et cette exposition est basée sur des textes d'un critique, d'un intellectuel britannique qui s'appelait John Berger, édité ces textes en 1972, d'après une série d'émissions de télévision
Voilà.
qui avait été diffusée sur la BBC l'année précédente. Alors cette exposition Ways of Seeing, elle nous invite finalement à regarder, à poser le regard sur les œuvres, donc ressentir également une œuvre. C'est la première attitude avant le mot, avant le discours et avant le cartel.
Absolument. En fait, pour John Berger, c'était très important de démocratiser en fait cet acte de regarder l'œuvre, d'interpréter. C'est pas que les professionnels, que les critiques, les historiens de l'art qui nous disent ce qu'on doit voir, ce qu'on doit comprendre. C'est plutôt une question d'une relation très intime et très personnelle entre l'œuvre et entre le visiteur. Et c'est en fait très important pour nous d'encourager les gens d'engager avec les œuvres sans avoir des textes, sans lire les dépliants, sans suivre des textes didactiques sur les murs. On a en fait choisi de ne pas avoir ces trucs-là, ce mécanisme de musée, parce qu'on voulait vraiment encourager les gens de faire leur avis à eux avant découvrir ce qu'on voudrait dire.
Les artistes recourent à des stratégies, on pourrait dire, pour configurer notre regard. Des stratégies, ça veut dire que malgré tout, on canalise, ils canalisent notre manière de voir.
Absolument. En fait, ça, c'est notre thème qui est très important dans l'exposition. On voudrait vraiment redonner les artistes leur position intégrale dans le contexte d'une exposition. Parfois, il y a des thèmes politiques, parfois, il y a un contexte qui nous fait penser à tout ce qui est autour des artistes, des œuvres d'art, au lieu de vraiment concentrer sur la contribution visuelle, technique, esthétique, formelle que l'artiste donne à une œuvre pour nous encourager à revoir les choses, à revoir le monde dans une façon différente.
Mais c'est difficile aussi de faire abstraction du contexte, de faire abstraction du lieu d'exposition, de la ville dans laquelle, de l'histoire également, avec un grand H,
Oui, en fait,
et de l'histoire de l'art.
mais absolument, mais la question là où ce qui nous intéresse est vraiment concentré sur le dialogue. Il y a toujours l'artiste et ce que les artistes font, et il y a aussi le contexte. Et c'est le dialogue entre les deux qui nous permettent de comprendre les choses d'une façon différente, au lieu de raconter de nouveau ce qu'on connaît déjà de l'histoire de l'art, de contexte, de l'histoire de la villa. C'est le placement des œuvres là qu'on a choisi qui peut nous encourager à recomprendre ce qu'on pense on sait déjà.
C'est la raison pour laquelle il y a pas mal de pièges finalement dans les œuvres. Il y a des pièges visuels, mais aussi des pièges conceptuels.
Absolument. Il y a beaucoup des œuvres quand on regarde la première fois, on pense qu'on a tout vu, qu'on a tout compris. Mais quand on passe du temps en plus avec les œuvres, qu'on les approche, qu'on fait la découverte des détails, on trouve que c'est absolument différent de ce qu'on a pensé avant. Et c'est à cause de les stratégies formelles que les artistes sont employées pour changer notre perception.
Il y a par exemple des œuvres cachées, ce sont des photos de Gustav Metzger. Il faut soulever un voile, il faut être vraiment confronté, avoir le nez sur la photo qui est souvent très très grande, hein.
Ouais.
Donc voir des fragments et toucher cette photo, soulever. Enfin, il y a un rapport très physique à l'œuvre aussi.
Oui, il y a des œuvres comme les œuvres de Gustav Metzger qui nous encouragent d'engager avec les œuvres dans une manière très physique. C'est pas seulement les yeux qui doivent découvrir l'œuvre, c'est le corps. On se met sur nos genoux, au sol, au-dessus d'un tissu pour vraiment découvrir la grande photo qui est sur le sol. Ça, c'est une autre façon de voir, en fait. On ne voit plus seulement avec les yeux, mais avec toutes nos facultés.
Et James Turrell va jusqu'à dématérialiser la sculpture, parce qu'il travaille uniquement, il sculpte l'air, il sculpte la lumière.
Absolument. Quand on rentre dans la salle où il y a l'installation de James Turrell, Alter Pink, de 1968, on a l'impression qu'on voit une sculpture en trois dimensions. Mais en fait, c'est qu'une œuvre qui est faite de la lumière dans l'espace vide.
Sam Bardawil, est-ce que finalement cette approche Ways of Seeing n'est pas subversive dans la mesure où s'il y a une réappropriation du regard qui est possible, on peut aussi envisager l'histoire de l'art d'une autre manière, mais également l'héritage culturel, le faire sien?
Oui, en fait, avec cette exposition, comme avec plusieurs projets que Til Felrat et moi on a fait avant et on continue à faire, ce qui nous concerne toujours, c'est comment on peut créer une revision de ce qui était dit, que ce qui était écrit. L'histoire de l'art était écrite plutôt dans une manière un peu eurocentrique, peut-être l'Amérique du Nord après la Deuxième Guerre mondiale. Mais il y a beaucoup des histoires qui ne sont pas racontées. Il y a beaucoup des discours, il y a beaucoup des chapitres dans l'histoire de l'art qui sont complètement méconnus. Et quand on met la lumière sur ces chapitres, quand on met la lumière sur la façon dont les artistes travaillent pour reconfigurer notre perception du monde, je trouve qu'on est obligé à repenser ce qu'on a appris et à imaginer une histoire de l'art, mais une histoire d'humanité qui peut avoir un différent sens.
L'histoire de l'art écrite par les intellectuels, par les historiens de l'art, par bon, les curateurs, les commissaires aussi.
Et, oui, absolument.
Le pouvoir, des gens
Et,
de pouvoir
voilà,
finalement.
c'est ça ce que je voulais dire. C'est par les personnes qui ont gagné les guerres, par les personnes qui ont les systèmes économiques supérieurs, où il y a les institutions, les musées, l'infrastructure de soutenir cet acte de d'écrire. Et là, on pense que c'est important de donner la voix aux gens qui n'ont pas eu cette opportunité, qui ont une autre histoire, un autre way of seeing l'histoire. Voilà.
Et d'échapper à la violence, finalement, parce que, comme vous la décrivez, finalement, l'histoire de l'art est une histoire violente.
Absolument. En fait, John Berger, il a dit que l'histoire de l'art, c'est l'histoire des gens riches qui veulent montrer leur possession matérielle. Et c'est vraiment le cas quand on regarde tous les grands tableaux de l'histoire. Il y a presque toujours une démonstration de la richesse, de la pouvoir, oui, voilà.
Alors, peut-être terminer cet entretien en évoquant une œuvre qui est assez forte finalement et presque paradoxale parce que l'œuvre n'existe pas, mais on l'a fait apparaître. C'est un artiste, James Webb, qui évoque finalement le Guernica de Picasso en faisant entendre un cri qu'une spectatrice devant ce tableau a poussé.
Absolument, c'est une œuvre très spéciale. Ça s'occupe une salle tout seul. Et en fait, l'artiste a demandé aux employés de Reina Sofia, où le tableau est montré, de se mettre devant le tableau et d'exprimer leur émotion à ce qu'ils voient dans le tableau. Alors, on sait bien que c'est un tableau qui montre la souffrance, la guerre. Et une femme qui travaille au musée, elle s'est mise devant le tableau et elle a que crié. The Scream. Et c'est cette scream qui nous engage, qui nous encourage à réimaginer le tableau. On a des traces de ce tableau dans notre tête parce que c'est vraiment très connu, mais le scream donne le tableau une présence malgré son absence qui est très fort et qui nous permet de accesser cette œuvre même si ce n'est pas dans la salle.
Oui, c'est vrai, c'est très fort parce que c'est très physique aussi, hein. C'est une onde
Voilà.
sonore qui vous touche.
Voilà, absolument.